La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très heureux d'être avec vous sur cette heure de déjeuner, voilà, sur ce début d'après-midi, durant ces 3 heures de direct en tout cas, et avec Rémi Barré autour de la table. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Il y a également Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante de Dijon. Bonjour Emmanuel.
Salut Estelle, salut tout le monde.
Le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Et Fred Hermel, notre journaliste et écrivain. Salut Fred.
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde.
Au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, les révélations sur les conditions de détention de Mohamed Amra. Téléphone, chicha, la prison est-elle devenue le Club Med? Dites-nous ce que vous en pensez au 3216 et sur l'appli RMC. À midi et demi, on parlera d'un tarif réduit de stationnement pour les petites voitures. Ça se passe à Marseille. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? À 13h, jusqu'à 1900 euros de prime JO pour les agents SNCF. Est-ce logique ou choquant? À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures. À 14h, Anne Hidalgo qui s'énerve contre ceux qui râlent contre les JO. Les Français sont-ils devenus des rabat-joie? À 14h30, RMC Conso, on vous dira tout sur le nouveau produit star dans les rayons des supermarchés. Ce sont les gnocchis à poêler. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais en tout cas, ça cartonne. Et puis, on vous fait gagner 20 000 euros de quoi acheter beaucoup, beaucoup de gnocchis.
Oui, jusqu'à 20 000 euros de gnocchis.
Ouais, c'est bon.
Ça fait quelques paquets quand même. Jusqu'à 20 000 euros à gagner tous les jours sur RMC. C'est la roue RMC. L'alerte que vous entendez maintenant. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment. Et à partir du moment où elle retentit, vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot roue par SMS au 73216. Roue par SMS au 73216. Restez bien à l'écoute. Ça peut tomber à tout moment jusqu'à 20 000 euros à gagner.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et ce sont les révélations de BFM TV concernant les conditions de détention de Mohamed Amra, ce détenu en cavale après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire. On apprend que Mohamed Amra pouvait téléphoner tranquillement ou encore fumer la chicha dans sa cellule. Bref, Rémi, il continuait de gérer ses affaires tranquillement.
Ouais, présenté comme un délinquant de moyenne intensité, il faut se le rappeler quand même. C'est un tout autre portrait qui se dessine selon les infos de BFM TV. Au cours de ces différentes détentions entre mars 2016 jusqu'à juin 2019, puis de janvier 2022 jusqu'au 14 mai dernier, date de son évasion, l'homme s'est ainsi procuré de multiples téléphones portables, quasiment à volonté, pour continuer à gérer son trafic de drogue depuis sa cellule. Rien qu'entre janvier et mai 2023, ce sont pas moins de 9 téléphones portables qui sont saisis dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. 9 téléphones portables saisis, on imagine qu'il y en a eu bien d'autres. Des portables qui lui permettent de surfer sur des sites de rencontres, mais surtout d'appeler ses contacts en utilisant les messageries cryptées parfois telles que Signal. Par ce moyen, il donne ses ordres sur l'organisation de son trafic de drogue et sur la gestion de points de deal. Il conseille, engueule, menace parfois ses comparses. Il monte également des vols de transport de drogue aux dépens d'autres clans. Il est soupçonné par ailleurs d'avoir commandité l'enlèvement d'un homme assorti d'une demande de rançon en Seine-Maritime. Tout ça toujours depuis derrière les barreaux. Ce n'est pas tout. Au début du mois de novembre 2022, Mohamed Amra aurait également cherché à se procurer des armes de guerre auprès d'un mystérieux fournisseur avec lequel il négocie l'achat pour 6000 euros pièce de fusils mitrailleurs, des fusils d'assaut similaires à l'une des armes utilisées par l'un des membres du commando le 14 mai dernier, lors de son évasion sanglante.
Alors, téléphone, chicha, pique-nique, parce qu'on rappelle, bien sûr, qu'hier, on a parlé de ce pique-nique hein, organisé au château de Versailles pour des détenus. Téléphone, chicha, pique-nique, la prison est-elle devenue le Club Med? C'est la question qu'on vous pose et que je vous pose, Thierry Moreau.
Alors bon, je mettrais le pique-nique à part, parce que c'est quelque chose de légal. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais c'est quelque chose d'encadré et de légal. Donc je mettrais ça à part. Tout le reste est illégal. La drogue, les armes, et ça c'est un vrai problème. On s'aperçoit aujourd'hui que la prison est une passoire, pas un Club Med, mais une passoire. C'est un lieu de non-droit. Il est impensable quand on lit à la fois l'enquête de BFM RMC et le papier dans Le Parisien, de voir que ces têtes de réseau continuent à travailler de manière tout à fait normale en prison. C'est-à-dire que la prison, c'est censé être une privation de liberté, mais donc évidemment une privation de continuer son trafic. Et c'est pas le cas. Le fait qu'une chicha arrive, ça pose un sacré problème, parce que de la drogue arrive, que des téléphones arrivent. Mais une chicha, ça veut dire qu'il y a une parce qu'elle n'est pas passée par-dessus la barrière.
Si on peut pas la cacher sous le matelas, quoi.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une complicité interne. Complicité interne.
Selon Le Parisien indique également, ça je l'ai pas dit, mais qu'il se faisait livrer quand il le souhaitait de la nourriture, du cannabis.
Oui, c'est ça, une sorte de Uber Eats à livreur, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il pouvait se faire livrer.
Je vous rappelle qu'on a vu aussi des piscines gonflables dans des cellules de détenus. Donc
Ça sous-entend quand même des complicités dans la prison, donc ça pose un vrai problème. Après, je me souviens d'un certain nombre de surveillants qui nous expliquaient que le fait de permettre les téléphones portables et de permettre la drogue, ça permettait d'acheter un peu la paix et de faire en sorte que les gens ne se révoltent pas trop lorsqu'ils étaient en prison. Sauf que, visiblement, ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'arrive pas à mettre le curseur pour que ça soit juste pour avoir la paix. En fait, c'est un vrai trafic et c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu une passoire. Donc je pense qu'il faut tout simplement que la prison redevienne un lieu de plein droit et non pas un lieu de non-droit où la loi est respectée, parce que la stratégie de laisser un petit peu passer les choses, ben ça fonctionne pas. Et puis je crois que c'est même pas un problème de moyens, parce que j'ai lu aussi dans les mêmes enquêtes que dans certaines prisons où a été Amra, il y avait des brouilleurs. Ben ça l'a pas empêché de travailler. Donc est-ce que le brouilleur était éteint? Est-ce qu'il fonctionnait pas? Donc c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté politique.
Après, la chicha, c'est pas tout à fait comme le téléphone. C'est-à-dire que la chicha, aujourd'hui, il y a des bars à chicha à Paris. Il me semble que c'est légal. Et dès lors que t'as le droit de fumer des cigarettes, bah tu peux avoir. Tu peux.
C'est quand même légal de faire venir une chicha dans une cellule.
Je suis d'accord, mais
c'est juste ça.
Moi, ça me gêne moins que le téléphone. Tu vois, si on doit faire une hiérarchie des choses.
Mais sauf que vu la taille de l'objet, ça sous-entend une complicité interne.
Oui.
C'est ça qui me pose problème.
Personne n'a pu l'amener dans une poche.
Voilà. Il faut rappeler ce chiffre qui est paru il y a 15 jours, l'Office français des drogues et des toxicomanies de lutte, qui disait que aujourd'hui, chaque jour, un détenu sur quatre fume du cannabis en cellule.
Ça pose aussi des problèmes de sécurité, d'ailleurs. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faudrait être plus ferme en prison? Je dis pas qu'on tombe de l'armoire quand on lit ce qu'on lit ce matin, mais on savait déjà que de toute façon il y avait des trafics en prison, etc. Mais là, de cette ampleur, peut-être pas. Mais est-ce qu'il faut être plus ferme? Voilà, revenir à plus de fermeté.
Oui, sur tout ce qui est illégal, comme l'a très bien pointé Thierry. Et merci d'avoir fait la part des choses. Évidemment. Et moi, quand je t'entends dire, mais je sais que tu le dis à ton corps défendant, mais que on a acheté la paix sociale en prison en permettant drogue et téléphone, on en est là quand même. C'est quand même complètement dingue. Après, je vais juste revenir sur quelque chose. La prison, c'est un lieu de privation de liberté, tout à fait, mais c'est aussi un lieu où on se prépare à la réinsertion. Et il y a tout un tas de choses qui sont faites en prison pour préparer les détenus capables de se réinsérer à la réinsertion. Donc, ils travaillent, il y a des cours,
je crois que
on
peut passer des diplômes. Je vais vérifier les chiffres, Emmanuel, je suis désolé, je parle beaucoup, mais je crois que c'est 3% des détenus qui travaillent.
Hein. Ouais.
Oui, et puis la réinsertion, c'est pas continuer le boulot de trafiquant que tu faisais avant de rentrer.
Ni de fumer du cannabis en cellule.
Le constat, on fait quel constat? On fait que nos prisons sont malades et ça n'est pas nouveau. On est sur un taux d'occupation, si on prend les chiffres de 2022 qui sont les plus récents, un taux d'occupation moyen en maison d'arrêt de 138,9%. Ça veut dire qu'il y a plus d'un détenu sur deux qui vit dans des prisons qui sont suroccupées à 120%. Donc ça pose vraiment des problèmes. On est sur une surpopulation endémique. On sait très bien que la plupart des prisons sont totalement insalubres. Forcément, tout cela augmente le nombre de violences. Et je rappelle que la France a été épinglée en janvier 2020 par la Cour européenne de justice et on a été condamné pour l'indignité de nos prisons. On nous a demandé de prendre des mesures.
Il y a trop de laxisme.
Ces mesures ont été prises et visiblement, ça n'a pas suffi. La preuve, on en arrive à cette incroyable histoire de Mohamed Amra.
Est-ce qu'il faudra un Grenelle des prisons à un moment, Fred Hermel? Non, mais c'est vrai, parce que là, tout le monde voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand je dis un truc, c'est 1000 trucs qui ne vont pas. Mais enfin, on a l'impression qu'on ne fait rien, quoi. On ne construit pas de prison. Les conditions de détention, alors on le sait, il y a aussi des prisonniers qui dorment par terre sur des matelas. Mais enfin, on voit qu'il y en a d'autres aussi qui fument la chicha et qui peuvent téléphoner en toute impunité. Donc, c'est vrai que ça pose quand même question.
Tu vas me permettre de répondre à la question principale.
Vas-y.
Il faut vraiment n'avoir aucune idée de ce qu'est la prison pour penser que ça peut être un Club Med. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, avec ces exemples-là, pensent que la prison, finalement, t'as un peu pris de liberté, mais enfin, tu te la coules douce. Non,
Mohamed Amra, il n'était pas pris de liberté, manifestement.
Non, mais c'est je veux dire, le problème, c'est que ce sont ces exemples et les révélations qui sont faites. Mmh. Quand on voit, on a parlé hier de ce pique-nique à Versailles, etc., la course de karting et les piscines, on a l'impression que c'est, non, la prison, c'est l'horreur. Faut savoir, enfin, je veux dire, c'est la réalité, donc faut pas imaginer que les détenus vivent leur plus belle vie en prison. Ce n'est pas vrai. Après, qu'il y ait de graves problèmes de sécurité, c'est une évidence. On le voit encore. C'est une évidence. Mais surtout, attendez, mais, vous savez, les prisons, elles sont pas chauffées, donc, il fait glacial l'hiver, il fait bien sûr, pas réfrigéré, donc hyper chaud l'été. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur, la prison. Mmh. Et il faut expliquer.
Bah, manifestement, ça dépend pour quel détenu.
Bah, oui, mais alors ça, c'est un autre sujet.
Bah non, c'est pas un autre sujet.
Mais, je ne veux pas.
La prison, c'est la même pour tout le monde.
Que ces exemples-là fassent croire, j'insiste, que la prison, c'est sympa. Non, c'est pas sympa la prison. C'est l'horreur. Par contre, qu'il y ait des vrais problèmes. Et aujourd'hui, les spécialistes vous expliquent que les drones circule toute la nuit en prison.
Et vous trouvez ça normal?
Ah ben c'est pas ça, c'est pas normal. Pour des questions de sécurité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mmh. Mais ces exemples-là sont fréquents. C'est une évidence. Il y a un vrai problème de sécurisation en France. Oui. Et qu'on sort de nouvelles prisons, bien sûr. Alors le Grenelle, qui est une vraie refonte. Mais oui. Je vais te dire, Estelle.
Mais ça me paraît
problème,
la base.
C'est que dans notre pays, on a besoin d'une refonte. De quasiment.
Oui, c'est vrai. Faut faire un Grenelle.
Non, mais le problème, c'est-à-dire que cette discussion sur le Grenelle. Attends, je termine. Oui. On dit l'éducation.
Ah bah oui.
L'insécurité, les transports, enfin tout est à refaire. La justice, on nous dit tous les jours, on peut faire un débat et tu peux me poser la question. Est-ce qu'on a besoin d'un Grenelle, trois petits points, ajouter le
mot. Non, c'est vrai, t'as raison.
Et le plus grave par rapport au laxisme dont vous avez parlé au début, c'est que ces informations ne sont pas remontées à qui de droit, parce que normalement, si toutes les informations
qui elles sont remontées, mais la personne a fait la sourde oreille
et qui existent ne sont pas remontées à qui de droit pour le classer DPS. Détenus particulièrement surveillés. Ils ne l'étaient pas. Alors que tout ce qu'on lit là justifierait qu'ils soient classés en DPS.
Mais en plus, tout le monde le sait, parce que, en fait, la cellule était écoutée. Oui. Mais j'imagine, on n'est pas dans une série, mais qu'on a écouté sa cellule pour pouvoir avoir quelqu'un d'encore plus gros, en se disant, lui, il est moyen, en fait, mais on va peut-être avoir un très gros, quoi.
Peut-être. Il était écouté parce qu'il est mis en examen dans le cadre d'un meurtre, d'un assassinat.
Mmh. D'accord.
Donc, c'est dans le cadre de cette enquête qu'il était sur écoute.
Oui, mais enfin, ils ont quand même bien dû voir qu'il y avait, que c'était pas juste un petit malfrat, vu tout ce qu'on.
Et donc, ces infos sont restées.
En 2023, un magistrat qui s'occupait du dossier Amra avait commencé à dire que finalement, on avait peut-être affaire à une tête de réseau et qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes sous ses ordres. Donc,
mais cette information n'a pas circulé.
Je tiens à dire quand même qu'on construit des prisons. Il y a 50 prisons qui sont en cours. Il y en a déjà une bonne partie qui ont été livrées. Il y avait 15 000 places qui devaient être faites. 75 000 places, pardon, pour 2027. Il y a déjà 19 établissements qui ont été livrés. Il y en a 9 en travaux, dont 4 en Île-de-France. On construit des prisons. Faut pas dire qu'on construit pas de prisons. C'est pas vrai.
On est très loin.
Pas encore le problème. Oui, mais on construit des prisons.
On est très loin de l'objectif initial affiché.
Alors, on a prison d'Europe.
On a Greg qui est avec nous, qui nous appelle de Loire-Atlantique, qui est chauffeur de poids lourd, mais qui a été incarcéré pendant 3 ans. Bonjour, Greg.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc, vous allez pouvoir nous dire si les prisons, c'est le Club Med. La question, elle est un peu provoque. C'est fait exprès, Greg. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qu'a pu faire Mohamed Amra, on est un petit peu abasourdi quand même.
Bah, j'ai envie de vous dire, maintenant, je comprends pourquoi vous êtes les meilleurs. Parce qu'en fait, tous les arguments que je voulais utiliser, vous les avez utilisés.
Ah mince. Mince. Bah, allez-y quand même. Parce que vous, là, vous connaissez le sujet.
Non, mais après, est-ce que c'est le Club Med? Je vais dire oui et non. Ou comme a dit Fred, ça dépend pour qui. Parce qu'il faut pas oublier que oui, c'est le Club Med pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, c'est aussi un gros calvaire, les prisons. Mmh. Ça il faut pas l'oublier.
Après c'est l'idée.
Voilà. Après comme a dit Thierry, c'est vrai que à un moment donné, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y a des drones. Tout le monde le sait qu'à telle heure il y a les promenades qui sont de telle heure à telle heure. Et il y a des jetaves qui sont jetés de la promenade. Les surveillants le savent, les surveillants le voient. Il y a des miradors, ils les voient, les jetés qui sont faits. Donc à un moment donné, pourquoi ils les arrêtent pas? Pareil pour les brouilleurs. Pourquoi ils les utilisent pas? Si à un moment donné, ils voulaient vraiment, vraiment arrêter tout ça, ils peuvent. Parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Comme vous l'avez dit, on peut pas rentrer une chicha comme ça sans que personne le voie.
Non. Donc, bah non, parce qu'on est. En plus, c'est forcément une chicha qui est rentrée avec un visiteur, parce que je pense pas que le drone amène une chicha quand même.
Mais non.
Donc ça veut dire soit le visiteur a pas été fouillé, soit on a laissé faire. Mais Greg, quand vous étiez incarcéré justement, est-ce que vous avez eu droit à des petites livraisons comme ça par drone ou vos proches si vous faisiez passer un portable ou d'autres choses?
Moi, j'ai pas eu accès à ça. La seule chose où j'ai eu accès, c'est vrai. Parce que après moi c'était pas surtout pour du trafic, mais c'est vrai qu'à un moment donné qu'on est coupé de la vie, c'est vrai qu'on a envie d'avoir un peu des nouvelles de la famille, donc c'est vrai. J'ai déjà utilisé des téléphones portables et en fait je faisais de la location, c'est-à-dire que je demandais à un détenu qui avait un téléphone portable à lui et en fait je lui louais pour une heure, pour l'après-midi, pour la journée, pour contacter ma famille. Mais moi c'était juste vraiment pour contacter ma famille.
Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a du trafic de portables. C'est-à-dire qu'en fait, vous saviez qui louait des portables. C'est-à-dire qu'il y a de la location de portables en prison. Mais c'est dingue ce que vous nous dites.
Ah oui, non, mais oui, mais je vous le dis. Moi, après, je sais que vous aurez un surveillant qui aura la parole tout à l'heure. Mais même lui, il pourra vous le dire. Il y a de la location de téléphone portable.
C'était combien l'heure?
Comment?
C'était combien l'heure?
C'était 50 euros l'heure.
Ah, quand même. Ah oui. Ah oui, c'est lucratif. C'est du racket.
Mais un iPhone 4, il se vend plus de 600 euros l'iPhone 4.
Ouh. Ah mais d'accord.
Ah oui, et le dernier iPhone, par exemple, l'iPhone 15, il tourne autour de 2000 à 2500 euros.
D'accord. Et donc, en fait, il y a du trafic de portables en prison.
Ça, voilà. Comment on fait pour payer? Comment? Parce qu'il n'y a pas d'argent en prison.
Bah, tu peux te faire amener de l'argent par tes proches.
Les mandats où, comme vous le savez, bah, Fred, comme vous êtes dans le milieu sportif, vous connaissez les paris sportifs, et bah, au lieu de faire un mandat cash, vous payez en PSF carte.
Oui, bah voilà, bah, bien sûr. Voilà.
Tout simplement.
Okay. Et vous aviez accès à Internet aussi, Greg?
Oui, on a accès à Internet. Parce qu'en fait, on sait exactement, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, il y en a pour certains, la prison se passe très bien. Et oui. En fait, ces personnes-là, c'est eux, entre guillemets, qui chapeautent tout. Donc, on sait exactement qui a les portables, qui a le shit, qui a l'alcool. Oui. Moi, je vous mens pas. Moi, j'ai passé un jour de l'an à boire de la vodka et du whisky avec mon co-détenu pour fêter le nouvel an. Et cet alcool-là, moi, j'avais pas la possibilité, j'avais pas mes collègues qui avaient des drones ou qui pouvaient jeter, mais je savais très bien qui en avait en prison et j'allais le voir lui directement et je lui achetais à lui directement.
Mais Greg, pardon de cette naïveté, mais si vous saviez, c'est-à-dire que les surveillants savent, alors ça veut dire, est-ce que les surveillants sont arrosés par les détenus pour fermer les yeux ou est-ce qu'ils ne voient pas, tout simplement?
C'est compliqué à répondre à cette question parce qu'en fait je pense, après moi je l'ai pas vu, mais je pense qu'il y en a qui doivent être payés, des surveillants, et il y en a d'autres où les pauvres, après je comprends, où les pauvres ils sont tellement dépassés qu'en fait ils veulent même plus nous surveiller, moi je vous dis. Ouais. Après là on parle des chichas et tout, mais moi je vous dis, quand des fois on est 200 dans des cours où il y a des bagarres, et ben les surveillants ne rentrent même pas pour séparer. Et ils le voient, c'est devant eux. Donc est-ce que c'est un ras-le-bol de leur part? Est-ce que je sais pas. Mais après, tout le monde le sait.
Bah merci beaucoup en tout cas Greg pour ce témoignage très fort sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans les prisons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et vous avez des messages, Rémi, également
sur la
pyramide.
Abou qui nous écrit, lui aussi a été en détention. J'ai fait de la prison, nous dit-il, sur Direct Studio, durant 6 mois, et je certifie que l'on trouve ce qu'on veut en prison encore plus facilement qu'à l'extérieur.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Wilfried Fonck, il est secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice. Bonjour Wilfried.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous tombez juste après le témoignage de Greg, hein, cet ancien détenu qui nous a raconté ce qu'il se passait en prison. Et est-ce que vous, qui êtes de l'autre côté, on va dire, vous avez la même vision des choses? C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que en prison, déjà, il y a des conditions de détention différentes en fonction des détenus? Et est-ce que effectivement, la drogue, l'alcool et les téléphones circulent comme dans la vie normale?
Alors, des conditions différentes de détention entre certains détenus, non. Qu'il y ait une différence finalement en termes de moyens dont disposent les détenus, oui, puisque forcément voilà, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes en fonction de leur activité criminelle. Pour autant, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que les conditions de détention qui sont décrites, nous, c'est nos conditions de travail. Ah, on travaille dans ces conditions-là. Et quelque part, bah, oui, derrière, ça fait 30 ans que la prison est malade, ça fait 30 ans que tous ceux qui succèdent à la place Vendôme ou à Matignon ou à l'Élysée ne font pas du milieu carcéral une priorité politique et budgétaire. Et aujourd'hui, bah, on se retrouve en France avec des prisons qu'on mérite. Alors, effectivement, le système politique veut que on ne fasse pas de vague. C'est toujours comme ça. C'est pas de vague au niveau des ministères. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus une vague, c'est un mur d'eau. Et c'est les personnels pénitentiaires qui doivent surfer dessus tous les jours. Et pour les personnels, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire des agressions physiques, des agressions verbales, des projections qui viennent de l'extérieur, des survols de drones avec des tonnes d'objets. Alors, des stupes, des téléphones, des couteaux, de la viande, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Mais derrière tout ça, c'est la sécurité de la structure qui est remise en cause, la sécurité des personnels également. Oui. Donc, à un moment donné, on a des missions qu'on nous donne les moyens pour pouvoir les exercer. Oui. C'est tout.
Mais est-ce qu'il y a, Wilfried, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'il y a de la corruption aujourd'hui en prison? C'est-à-dire que, est-ce que certains surveillants laissent faire en échange de services ou d'argent?
Alors, les surveillants laissent faire, non, parce que les surveillants, ils cavalent toute la journée entre la gestion d'une population pénale qui est de plus en plus nombreuse et d'un effectif en personnel qui, lui, va dans le sens inverse, puisqu'on est en sous-effectif chronique depuis des années. Donc, après, vous me parlez de corruption. Il y a moins de corruption chez les personnels pénitentiaires que dans d'autres milieux que je ne citerai pas, parce qu'il faut se baser sur des faits objectifs.
Et mais c'est pas parce qu'il y a moins. Oui, il y a des milieux où alors, la corruption est toujours gênante, mais quand elle est en prison, c'est encore plus gênant, j'ai envie de dire.
Ah ben, j'entends bien ce que vous voulez dire, mais à 99,9%, la probité des personnels, elle n'est pas à remettre en cause.
D'accord.
À aucun moment.
D'accord.
Moi, quand je vois le nombre de procédures disciplinaires qui aujourd'hui passent pour les personnels en raison de faits de corruption, quand on en a une par an, honnêtement, on peut s'estimer franchement heureux, entre guillemets, quoi. Mais il n'y en a pas plus. Il n'y a pas plus de procédures judiciaires qui sont ouvertes ou d'enquêtes qui sont ouvertes pour ça.
Ok, donc, mais comment Ahmed Amra a une... Oui, mais comment Ahmed Amra a une chicha dans sa cellule? Je suis désolée. À moins que le surveillant soit aveugle, ça se voit une chicha. Je sais pas un paquet de clopes planqué sous le matelas. Donc comment vous expliquez qu'on ait laissé cette chicha? C'est bien que soit à un moment le surveillant a décidé de laisser faire, soit il a été payé pour laisser faire, vous voyez?
Alors, payé pour laisser faire, ça, je veux même pas l'entendre.
Ouais. Ok, mais moi, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais moi, je suis obligée de vous poser la question.
Est-ce que lui l'a vu? Oui, forcément, il l'a vu.
Bah
après,
oui.
Derrière, il se passe quoi? Bah, le surveillant, il a lui aussi une hiérarchie. Une hiérarchie intermédiaire dans son bâtiment, son chef de bâtiment, l'adjoint du chef de bâtiment, qui eux-mêmes ont aussi une hiérarchie, qui
d'accord.
s'appelle le chef d'établissement. Et à partir du moment où on est toujours dans cette logique de pas de vague, eh ben, il se passe quoi? Eh ben, on a parfois des décisions qui sont prises, qui peuvent surprendre, qui
j'entends.
Vous surprennent vous, mais qui
bah
vous
oui.
surprennent nous en tant que professionnels. On va dire, bah, on achète la paix sociale, en fait. Et effectivement, on achète la paix sociale dans les prisons. Pourquoi? Parce que, revenons à la période du Covid, quelques temps en arrière. Mm-hmm. À partir du moment où il y avait des parloirs avec des dispositifs de sécurité, voire pas de parloirs du tout, en raison du confinement, eh ben, tout ça, ça rentrait plus, en fait. Donc, si effectivement, demain, on souhaite ne plus faire rentrer, ça ne rentrera pas. Par contre, faut être prêt derrière à ce que les prisons deviennent de véritables cocottes minutes, à ce qu'on envoie au casse-pipe les personnels qui vont gérer les détenus qui vont monter en température, et puis demain, ben, il va falloir reconstruire des nouvelles prisons parce que tout sera cramé.
Voilà, ce que vous dites, Wilfried, ce qu'on entend, c'est même si c'est illégal, en fait, aujourd'hui, concrètement, on va dire plus confortable de laisser des détenus prendre de la drogue ou prendre de l'alcool ou fumer en cellule.
C'est un peu d'échec.
Voilà, en fait, on a acheté la paix sociale et on fait naître
alors,
un sentiment
là,
d'impunité.
En fait, ce que vous venez de dire sur la consommation de stupéfiants, l'usage des téléphones et compagnie, ça n'engage que vous. Il faut bien vous dire que quelque
part... Ça n'engage pas que moi, parce que ça existe.
Les personnels font leur maximum pour lutter contre ces trafics,
d'accord.
pour lutter contre la présence de ces téléphones. Mais prenez l'exemple aujourd'hui dont on parle de cet individu-là qui s'est évadé dans un commando totalement meurtrier, qui a tué deux de nos collègues. Ce gars-là, on lui tape 9 téléphones. Donc ça veut
en
dire
six mois.
Tous ceux en 6 mois.
Donc vous avez fait votre boulot, ça c'est sûr.
Donc quelque part les 9 téléphones, imaginez tous ceux dont on n'a même pas connaissance, c'est-à-dire
bien
que
sûr.
On en
a
un, derrière il y a la capacité dans la minute qui suit d'en avoir un nouveau.
C'est ça qui est.
Donc pour nous, c'est une véritable course à l'échalote en fait. On se bat contre des moulins à vent. Les personnels pénitentiaires et notamment les personnels de surveillance, imaginez tous les jours pour eux, ils sont en train de jouer des Don Quichotte en fait.
J'entends. Mais s'il y avait des brouilleurs, s'il y avait des brouilleurs, en fait, ce serait aussi plus confortable pour les agents pénitentiaires. Ils n'auraient même pas à supprimer les portables ou à les confisquer parce qu'il y aurait des brouilleurs, vous voyez?
Mais les brouilleurs, j'ai envie de dire, Estelle, c'est très bien sur l'instant T. Mais derrière, la technologie, elle évolue. Donc, si derrière le système de brouillage, lui, il n'est pas mis à jour en conséquence, votre système de brouillage, il ne fonctionne pas. C'est comme pour les drones, même tarif.
C'est comme pour le dopage où les dopés ont toujours une longueur d'avance sur les agences antidopage. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Wilfried Funk, voilà pour ce témoignage sur tout ce qui se passe aujourd'hui en prison, et on comprend bien que les personnels pénitentiaires sont dépassés et que le pas de vague est également là en prison. Mais c'est vrai que ce qu'on entend est totalement désolant, parce qu'on se dit qu'il y a finalement il y a pas grand chose à faire.
Et encore une fois, il y a ce qu'on entend, il y a les faits. Tout à l'heure, on parlait du travail en prison. Alors,
oui, on a vérifié.
Aujourd'hui, c'est 30%, 31% des détenus qui travaillent plus ou moins régulièrement de façon rémunérée en prison. C'était le double il y a 20 ans.
Oui.
Donc déjà, on a perdu...
Mais ils ont plus besoin de travailler, il y a le trafic de drogue qui fait que...
Oui, mais on a reculé d'une manière... Oui, mais c'est une question de moyens aussi. Il y a beaucoup plus de détenus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Et puis, je reviens sur ce chiffre, on parlait tu évoquais le cannabis, la drogue qui circule en prison. C'est un chiffre de l'Office de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Un détenu sur quatre fume aujourd'hui quotidiennement en cellule. Donc voilà.
Alors, on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La prison est-elle devenue le Club Med ?
Allez, l'interpellation était provocatrice. Mais en tout cas, la réponse, elle est sans détour. C'est 93% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux qui l'estiment, oui, que la prison est devenue un Club Med.
Et c'est vrai que c'est rare qu'on atteigne les 90% dans les sondages. Allez, dans un instant, on change totalement de sujet. On va parler de ces tarifs réduits mis en place pour les petites voitures.
Mais oui.
À Marseille, pour le stationnement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? On en débat avec vous dans un instant au 32-16 et sur la pierre RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 34, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et aujourd'hui, autour de la table, vous retrouvez avec un immense bonheur Rémi Barré, Emmanuel Dancourt, Thierry Moreau et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser à la bonne nouvelle du jour. Et elle est pour les propriétaires de petites voitures à Marseille. La mairie de la ville a en effet décidé d'accorder un tarif réduit de stationnement aux véhicules les moins encombrants. C'est l'inverse finalement de Paris qui, elle, a préféré taxer les SUV. On est un peu sur deux salles, deux ambiances, Rémi.
C'est ça, exactement. Écologie incitative, pourrait-on dire, et écologie punitive de l'autre. Cette mesure, elle figure, pour ce qui est de Marseille, dans l'appel d'offres qu'a lancé la ville début mai, à l'occasion du renouvellement de deux délégations de services publics, celle qui concerne le stationnement payant sur voirie et celle des parkings de surface gérés auparavant par la métropole. Les candidats à cet appel d'offres ont jusqu'à mi-juin pour répondre à l'appel d'offres, et avec une entrée en vigueur prévue en février 2025. Et donc, parmi ce qui a été demandé aux candidats, eh bien c'est cette mise en place d'un tarif réduit pour ceux qui détiennent des véhicules de plus petit gabarit, clairement des voitures des citadines. Aujourd'hui, une heure de stationnement à Marseille, il faut le savoir, quel que soit le type de véhicule, coûte 1,50€. La démarche de la ville de Marseille, c'est l'exact inverse de ce qui se passe à Paris. Là où, dans la cité phocéenne, l'idée est d'être incitatif, donc dans la capitale, c'est punitif qui a été choisi. Puisqu'à compter du 1er janvier prochain, les propriétaires des véhicules les plus lourds seront surtaxés, hormis ceux qui résident à Paris. Venir dans la capitale avec son SUV coûtera, attention, de 12 à 18 euros de l'heure en moyenne de stationnement.
Ah oui, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, voilà, ou deux villes, deux tarifs. Alors, tarif réduit pour les petites voitures à Marseille, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Fred Hermel ?
Oui, c'est bien parce que c'est incitatif. C'est ça, toute la différence.
Bah, ça t'incite donc à circuler en voiture, c'est pas très écolo.
Non, mais
d'avoir une voiture adaptée à la ville.
Mais non, parce que pour beaucoup de gens, il y a besoin d'une voiture. Donc, à partir du moment où tu dois faire un choix de voiture qui te convient à toi, tu te dis, en fait, ça va me coûter beaucoup moins cher de stationner avec une plus petite voiture, tu as plus tendance à avoir une petite voiture. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que ça révèle politiquement. Nous avons deux mairies dirigées par des maires socialistes. Benoît Payan à Marseille, Anne Hidalgo à Paris. Et qu'est-ce qu'on a ? On a à Paris une maire faible, totalement dirigée, une mairie faible et une maire faible, totalement aux mains des écologistes. Et à Marseille, un vrai bon socialiste qui tient sa mairie. C'est ça la différence. Et on voit tout de suite une différence une façon différente.
Il y a d'autres soucis à aborder les choses.
Oui, le stationnement, c'est pas la priorité,
on va dire. Je veux dire, dans le fait, on voit qu'Anne Hidalgo est totalement aux mains des écologistes et que Benoît Payan n'est pas du tout dans cette logique-là.
Oui.
Parce qu'à partir du moment où tu fais Paris, ce n'est que de l'écologie punitive et une politique anti-bagnole. À Marseille, on essaye d'être un peu pragmatique. Et ça, c'est bien. Ça ne va pas à l'encontre des citoyens.
Vous m'avez l'air sceptique, Thierry Moreau.
Oui, je ne suis pas tout à fait sur le même créneau, parce que ça reste quand même une taxation. Simplement, on ne se met plus sur le poids, mais on se met sur la longueur.
Non, mais c'est moins cher.
Alors, non, mais c'est moins cher parce que c'est Marseille et pas Paris. Je pense que là.
Non, déjà, non, mais t'as quand même un tarif réduit.
Non, t'as
oui,
c'est pas. C'est je pas, suis t'es d'accord. T'es plus cher quand t'as un SUV, c'est. T'es moins cher quand t'as une petite voiture. Voilà. C'est ça la différence.
Et c'est tarif normal pour les.
Je suis d'accord. Mais une fois de plus, je pense qu'on prend, encore une fois, le problème à l'envers. Où sont les parkings périphériques dans les villes pour pouvoir déposer son véhicule à moindre coût et utiliser les transports en commun? Où est le maillage qui nous permettrait de ne pas utiliser la voiture en ville et de venir? Moi, j'ai regardé, par exemple, si je décide de partir de Mantes-la-Jolie pour aller à Gare Saint-Lazare samedi soir à 20h30, je mets 2h43 et je fais 4 changements. D'accord.
C'est beaucoup.
Donc, il y a un vrai problème de maillage des transports en commun, il y a un vrai problème de conception des parkings autour des grandes villes. Je pense qu'on prend à nouveau le problème à l'envers. Alors, ok, c'est vrai que c'est mieux à Marseille, et tu as raison, c'est sans doute mieux tenu politiquement, mais une fois de plus, si tu as une famille nombreuse, une petite voiture, c'est pas forcément pratique, et ces familles-là vont être pénalisées. Donc, c'est mieux, mais c'est pas encore l'idéal.
Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Lecour, ça peut convaincre les automobilistes de réduire la taille de leur véhicule? Bon, je suis pas sûre, quand même.
Alors, je voudrais d'abord saluer la blague du jour. Je crois que personne ne l'a relevé quand Thierry Moreau nous dit « Je suis pas sur le même créneau pour nous parler de stationnement. » Celle-là, elle est pour toi, Thierry. Après, cette mesure, moi, j'aime bien. J'aime bien, effectivement, le fait qu'on soit sur de l'incitatif et pas du punitif. Après, ça aura quelles conséquences? Est-ce que ça va nous inciter, tu me disais, à moins
utiliser... à acheter plutôt une petite voiture qu'une grosse, quoi.
Mais, oui, mais regarde. Moi, je suis mère de famille nombreuse. Bah, j'arrive pas à situer.
Après, t'as les grands-enfants, ils peuvent prendre des transports en commun, excuse-moi.
J'habite à 30 bornes.
Oui, c'est vrai.
De Dijon. Donc, voilà. Sinon, ils prennent des transports en commun au maximum.
Ils achètent une petite voiture.
Faut vrai qu'on détermine ce que c'est qu'une petite voiture et une grosse voiture. Mais j'ai immédiatement pensé aux familles nombreuses qui circulent quand t'as 5, 6 enfants, les familles recomposées. Il y en a des tonnes aujourd'hui.
C'est même pas la majorité des familles de France avec 6 enfants.
Il y a plein de familles non recomposées.
Ah oui, recomposées.
Plein de familles recomposées. Okay. Moi, j'en ai plein autour de moi. On est 7 chez moi. On est rarement les 7 dans la voiture. D'accord, mais malgré tout, il y en a plein. Et je me dis, c'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé la solution pour ces familles-là. Mais sinon, la mesure, je la trouve assez géniale. Et j'attends la ville qui fera les deux, qui aidera les petites voitures à se garer moins cher et qui taxera les SUV à se garer plus cher. Je l'attends, cette ville-là.
Qui améliorera les transports en commun. Voilà. Ce qui serait
honnêtement, parce que tu dis, il faut penser aux familles, etc.
Mais oui, et ce sont mais je pose la question.
Et là, tu dis, il faut taxer les SUV. Le Duster, mais un SUV, c'est l'anciennement Espace, c'est un SUV.
Mais je pose la question. Mais pour moi, c'est pas un SUV. Un Espace, c'est pas un SUV.
La Dacia Duster, c'est un SUV.
Mais je n'ai pas la réponse. Je pose la question.
Et tu es bien,
c'est ça. Mais tu sais, on a quand même des villes. Enfin, Dijon a toujours été au top du classement dans la desserte de ses bus. Mais sauf qu'il y a de plus en plus d'habitants dans Dijon, je pense, comme ailleurs. Et donc voilà. Donc au bout d'un moment, malgré tout, t'as beau être très bien desservi, ça s'essouffle.
Alors, on est avec Julien, qui nous appelle.
Oula, bonjour Julien,
à la gorge, qui nous appelle de Gex dans l'Ain et Julien, il est dans l'hôtellerie. Bonjour Julien.
Bonjour Estelle. Bonjour à tous.
Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous voulez réagir sur ce débat, Julien. Est-ce que c'est une bonne idée comme ça de réduire le tarif de stationnement pour les petites voitures?
Alors en soi, on cherche des solutions effectivement pour désenclaver les villes. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois on tape toujours sur les mêmes personnes. Moi par exemple, j'ai pas de bol, je suis né un peu à la mauvaise époque puisque il y a quelques années quand j'étais célibataire, je roulais en Smart. Donc là, c'était top.
Ah, c'était bien ça.
Et à l'époque, il y avait des petites places pour les Smart, mais du coup, c'est dommage. Maintenant, j'ai décidé de fonder une famille et je roule en SUV. Désolé. Mais c'est un modèle, c'est un Duster, hein, donc c'est pas non plus.
Oui, mais c'est un SUV quand même. Ouais, je sais.
Mais pour 4 personnes, c'est ce qu'on a trouvé comme modèle dans les budgets aussi, etc. Ouais.
Oui, mais Julien, après, je me souviens de ma mère qui avait une Clio et parfois on était 5 dans la voiture. Donc en fait, il y a 20 ans, ça nous gênait pas d'être à 5 dans une Clio, alors qu'aujourd'hui, on est à 3 dans un SUV. Vous voyez, il y a quand même un changement d'époque.
Il y a la responsabilité des constructeurs. Hein. Moi, je vais le regarder.
Bien sûr, Rémi,
en 2018, la taille moyenne d'une voiture, 177 cm. On parle des grosses voitures des SUV. Hein. En 2023, 180 cm. 50% des véhicules neufs type SUV aujourd'hui excèdent les 180 centimètres de large. En 1995, en moyenne, un SUV, ça pesait une tonne, ce qu'on appelait une familiale à l'époque, en 1995, une tonne. Aujourd'hui, c'est une tonne 2.
Mais c'est normal. Oui, c'est normal pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Oui. Et puis, la batterie de votre fameuse.
Non, mais on parle pas de l'électrique.
Mais non, on parle pas d'électrique.
D'accord, ok.
Mais c'est aussi parce que.
Tu rajoutes du poids. De toute façon,
les voitures, elles se sont élargies.
De toute façon, aujourd'hui, il est clair que ça, c'est la responsabilité aussi des constructeurs, qu'on fait des voitures de plus en plus grandes, de plus en plus larges, de plus en plus sécures et de plus en plus lourdes.
Alors, Julien, vous vouliez rajouter quelque chose, allez-y.
Oui, juste parce que comme vous preniez l'exemple de la Clio, par exemple, la Clio de l'époque que j'ai connue aussi, effectivement, c'était une petite citadine, et même la Clio a augmenté de taille. Donc après, avoir, comme disait Emmanuel tout à l'heure, ou votre intervenant précédent, qu'est-ce qu'on considère comme petite ou grande voiture également. Donc, mais après, je peux comprendre que les villes cherchent des solutions aussi, hein, mais... Mais voilà.
Rendez-nous les R5.
Oui,
elle revient.
Ah bah, elle revient d'ailleurs, mais alors avec une nouvelle version modifiée qui doit être évidemment beaucoup plus lourde et beaucoup plus grande.
Et beaucoup plus
chère. Bah, évidemment.
C'est qu'un grand Picasso, tu la mets en quoi, toi?
Bah, c'est un SUV.
Bien sûr.
Ah oui. Non, mais Picasso, c'est un SUV. Bah, si.
C'est vraiment une petite voiture pourtant.
La surtaxation des voitures à Paris, dont on parle, on parle notamment des SUV, c'est en fonction du poids de la voiture. Donc
Et le problème, c'est qu'une voiture électrique pèse plus lourd qu'une voiture diesel, par exemple. Alors, elle pollue moins, mais elle pèse plus lourd. Donc, en fait, tu vas être taxé avec un SUV électrique à Paris et tu ne le seras pas pour un vieux diesel d'il y a 20 ans. Donc, évidemment, il y a quand même beaucoup de paradoxes là-dedans. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. On a pas mal de messages sur la PRMC également, Rémi.
Oui, des messages de certaines personnes, en tout cas, la plupart d'entre elles, qui se réjouissent, en tout cas, de ce type de mesure plutôt incitative qui est prise à Marseille. Ras-le-bol de toujours taper sur les Français moyens, c'est ce que nous dit Marie. Effectivement, c'est intelligent pour ceux qui le peuvent, en tout cas de les inciter à avoir de plus petites voitures en ville, plutôt que de taxer tout le temps comme on le fait à Paris.
Voilà. Alors, vous avez l'air plutôt sceptique sur cette mesure. On va voir si c'est le cas des auditeurs et des téléspectateurs d'Estelle Midi. Un stationnement moins cher pour les petites voitures, les citadines. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Rémi?
C'est une mauvaise idée, pardon, non, on va être honnête. Mais c'est pas si franc que ça. C'est une mauvaise idée pour 57% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Bon, marge d'erreur, c'est 5%, Rémi. Ouais. Là, on va dire que pour les auditeurs, c'est une mauvaise idée, mais parce qu'a priori, ils ont tous
des... La marge d'erreur, c'est comme des voitures. Plus le temps passe, plus elle s'élargit.
Exactement.
Je suis
assez d'accord.
C'est comme la taille des voitures.
C'est ça. Dans un instant, on aura Anthony Morel sur le plateau. Et ouais. Anthony, qui va nous parler des meilleures innovations santé du salon Vivatech qui se tient actuellement. Ah oui. On va parler de cabinets médicaux itinérants, de lunettes connectées pour aveugles ou encore de médicaments personnalisés. Et puis à 13h, on parlera des primes JO pour les agents SNCF. Ça y est, on connaît le montant. Écoutez, ils avaient demandé 100 euros par jour. On est à 95. On ne sait pas s'ils sont contents ou pas. Enfin, ça peut faire jusqu'à 1900 euros par mois.
Ils ont jusqu'au 4 juin pour réfléchir.
Voilà, de primes JO pour les agents SNCF. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant pour vous? On en débat dans un instant sur AMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 49, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On parle nouvelle technologie dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, vous avez de la chance parce qu'hier, vous avez passé toute la journée dans les allées de Vivatech. C'est le plus grand salon français dédié à l'innovation. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment autour de la santé. Vous avez notamment eu droit à une consultation dans un cabinet médical un peu spécial.
Ouais, exactement. Un cabinet médical roulant, ambulant. Voilà, c'est une première et c'est français. C'est une innovation française. C'est peut-être une solution, un début de solution au problème des déserts médicaux. C'est Renault qui s'est allié avec plein d'industriels et une entreprise qui s'appelle WeSings, que vous connaissez bien.
Balance connectée,
tensiomètre connecté. Exactement. Et là, ils ont mis au point ce véhicule qui est assez étonnant, qui fonctionne un peu sur le mode, vous savez, des camions qui distribuent le pain dans les villages. Ça fait, on klaxonne et puis
c'était il y a 30 ans, mais enfin bon,
je sais exactement. Oui, mais c'est ça que je trouve génial, c'est que justement on a un principe qui finalement date un petit peu, mais en fait qu'on va réinventer grâce à la tech. En gros, c'est le même principe, donc c'est destiné à se balader entre les villes, les villages. Ça va s'installer tranquillement sur la place de la mairie ou la place de l'église. Vous prenez rendez-vous via une application, vous arrivez, vous montez à l'arrière du véhicule et là vous vous retrouvez dans un cabinet mais ultra high tech. Vous installez sur un siège qui est bourré de technologie. psychologie, donc vous avez rien à faire.
Et ça va pas prendre... de médecin dedans.
Alors il y a en fait il y a un aide-soignant, mais le médecin il est en visioconférence.
Ok,
vous.
D'accord.
Voilà. Et donc vous vous installez, et le siège lui-même va prendre vos constances vitales qui vont s'afficher à l'écran. Vous entrez en visio avec le médecin, vous lui dites ce que vous avez, votre problème, et en fait vous avez tous les instruments médicaux qui sont à portée de main. Donc c'est vous qui allez réaliser les gestes médicaux. Par exemple, il y a un stéthoscope, donc vous prenez le stéthoscope, vous le mettez sur vous, le médecin peut vous guider, l'aide-soignant aussi évidemment, et le médecin va entendre à distance les battements de votre cœur, vos poumons, etc. Vous allez avoir un otoscope, donc vous mettez ça dans les oreilles, vous avez un tensiomètre, une balance, enfin tous les instruments possibles et imaginables, sachant qu'en plus, c'est modulable, c'est-à-dire qu'on peut le transformer en cabinet médical, en comment dire, là on peut faire des tests médicaux, des tests sanguins par exemple, en cabinet d'ophtalmo avec tous les appareils possibles et imaginables. Donc c'est hyper malin, et en fait c'est les collectivités locales qui vont s'équiper de ce genre d'appareils et qui vont les faire circuler en fait dans les villes et dans les villages où il y a besoin de médecins, d'infirmiers, d'infirmières en fonction des besoins à tel ou tel moment en fait.
Et donc l'aide-soignant, il est aussi chauffeur quoi.
Non, il y a un chauffeur aussi.
Ah oui, d'accord. Ouais,
il y a un chauffeur. Peut-être que les prochaines versions seront autonomes, on ne sait pas, mais non, pour l'instant, il y a un conducteur et il y a un aide-soignant ou une aide-soignante à l'intérieur. C'est très malin, ça fonctionne un peu sur le modèle des cabines médicales qu'on trouve maintenant un peu dans les mairies, dans les pharmacies, dans les gares aussi. Mais sauf que là, ce qui est très malin, c'est évidemment qu'on peut le faire rouler et donc on peut aller là où il y a vraiment des besoins à un instant T, quoi.
Voilà, dans les déserts médicaux, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en France. Dans ce salon VivaTech, vous avez vu aussi des innovations qui vont nous permettre de personnaliser au maximum la prise de médicaments. C'est-à-dire qu'on arrêtera aussi d'acheter des boîtes de 25 quand on a besoin de 3 comprimés.
Exactement, et avec des dosages aussi qui vont être extrêmement personnalisés, ça c'est hyper intéressant. On va aussi pouvoir éviter les mauvaises interactions médicamenteuses. C'est une start-up niçoise qui s'appelle Exact Cure qui présente ça. En gros, ils ont mis au point alors ce qu'on appelle des jumeaux numériques. En gros, on prend le patient et on va utiliser énormément toutes les données qu'on a sur lui pour créer une sorte de double virtuel. Donc on va utiliser alors le poids, l'âge, la taille, le sexe, des choses assez basiques, mais aussi le profil génétique, tous les examens sanguins qu'on a pu avoir les dernières années. Et à partir de ça, eh bien on va tester, quand le médecin vous prescrit un médicament, on va tester les doses sur votre double médical.
D'accord.
Votre jumeau numérique, pour savoir s'il n'y a pas des risques que vous dépassiez telle ou telle dose, qu'il y ait une mauvaise interaction avec un autre médicament. Mm-hmm. Et à partir de ça, eh bien on va éviter un certain nombre d'erreurs. Il y a des dizaines de milliers de morts par an à cause de mauvaises interactions médicamenteuses. Et donc là, on va pouvoir eh bien, limiter au maximum les problèmes grâce à cette innovation-là.
Et prendre exactement les médicaments qu'il nous faut.
C'est exactement
sans en prendre
ça.
Trop ou pas assez. L'autre innovation médicale, elle est pour les non-voyants avec des lunettes. Alors, c'est vrai que quand vous m'avez dit des lunettes pour non-voyants, j'avoue, Anthony, ouais. J'étais un peu sceptique. Enfin, voilà.
Vous avez tiqué un peu, je comprends.
Bah, un peu, ouais.
Mais sauf que là, en fait, ce sont des... Alors, les lunettes... C'est un bien grand mot parce qu'en fait c'est un truc qui se met sur le front et ça ressemble vaguement à des lunettes, c'est pour ça que je dis ça, mais elles vont être capables de remplacer une canne pour non-voyants ou même un chien d'aveugle. C'est que le dressage d'un chien d'aveugle, ça coûte extrêmement cher, ça coûte des dizaines de milliers d'euros, donc évidemment tous les non-voyants n'ont pas un chien d'aveugle. Et là en gros, c'est une start-up qui s'appelle Lumen, ils ont mis au point ce dispositif qui incorpore les mêmes technologies que vous avez dans les voitures autonomes. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir détecter de manière extrêmement précise tout ce qui se trouve dans l'environnement de la personne non-voyante, les obstacles, et on va guider la personne. Alors,
ça va biper ?
Alors ça va pas biper, ça va vous tirer vers l'avant ou sur les côtés, de manière assez subtile. De la même manière que le chien d'aveugle, il tire sur la main.
Si t'as ta femme devant toi, par exemple, et t'as envie d'embrasser.
Eh ben t'avances. Voilà.
Si à chaque fois, ah ben non.
Ça fera pas bip bip, vous inquiétez
pas. Non, là ça fera pas bip bip. Non, mais il faut que il y ait vraiment un obstacle ou quelque chose qui vous bloque le passage.
Mais comment on saura si c'est un humain ou un poteau ?
Si c'est un humain, de toute façon, vous allez l'éviter, que ce soit un humain.
Pas du tout. Encore une fois, t'as envie de lui faire une accolade ou quoi, si à chaque fois on te tire sur le côté.
Alors oui, alors je sais pas si ça donne ce niveau de précision. Ce que je sais en revanche, c'est que vous pouvez lui demander, par exemple, vous pouvez lui demander, dis-moi où est l'entrée de l'immeuble, par exemple. Et là, ouais. Pour le coup, il va comprendre qu'il y a une entrée sur l'immeuble et donc il va vous guider jusqu'à l'entrée. Dis-moi où est.
Mais genre, il dira, tu chauffes.
C'est ça, en fait, c'est par des systèmes de vibration, en fait. Donc ça vibre à gauche, ça vibre à droite et vous allez pouvoir vous rapprocher de manière comme ça, très intuitive. De l'endroit là où vous voulez aller. Donc c'est assez malin là aussi.
C'est déjà sur le marché ça ?
Ça s'appelle Lumen, c'est en cours de développement pour l'instant.
D'accord, mais c'est vrai que ça va faciliter la vie de très nombreux malvoyants en France. Merci beaucoup Anthony Morel, on parle de quoi demain ?
On va continuer VivaTech, les innovations. Alors demain je vais vous présenter des voitures que j'ai croisées absolument incroyables, des voitures électriques mais qu'on a
Ça existe déjà.
Oui, ça existe déjà, mais celle-ci. Merci. Mais on les recharge beaucoup, beaucoup moins souvent parce que celle-ci, elle tourne en partie à l'énergie solaire.
Oh, génial. Ouais,
c'est absolument dingue.
Le temps qu'il fait en ce moment.
Oui, alors ça fonctionne.
Avec ça fonctionne moins bien. Ça fait 6 mois que tu l'as laissé, là.
Ouais, autonomie 6 km. Ouais.
Merci beaucoup, voilà. Anthony Morel. On retrouve bien sûr votre chronique tous les jours, 12h50 dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on parlera de la prime JO pour les agents SNCF. Ils ont obtenu jusqu'à 1 900 € pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.